Bonjour à tous, aujourd'hui enquête sur un hôpital public au bord de la crise de nerfs, manque de moyens, personnel débordé, l'hôpital est-il en train de craquer ? Secret d'info lui consacre une émission spéciale, nous entendrons tous les points de vue des soignants, des directeurs d'hôpitaux, des spécialistes et la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour mieux comprendre comment on en est arrivé là. On va voir ça avec vous, Mathilde Erard, bonjour.
Bonjour.
Et pour réagir à notre enquête, nous recevrons Philippe Halimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de radiologie à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et vous venez de publier un livre choc, Hôpitaux en détresse, patients en danger. Et puis nous accueillerons le médiateur de Radio France, Bruno Denas, bonjour.
Bonjour Benoît Colombin.
Avec vous, nous répondrons à toutes les questions des auditeurs en fin d'émission.
France Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
Un hôpital, j'ai envie de dire, c'est un hôpital public, c'est un service public. On n'est pas une clinique, on n'est pas un hôpital à but lucratif, quoi. On n'est pas là pour être rentable. On ne vend pas des pots de yaourt, on n'est pas une industrie, on n'est pas l'hôpital, c'est pas une marchandise, quoi. Et à un moment donné, c'est de l'être humain, c'est de l'hospitalité. J'invite franchement à retrouver ce mot de hôpital. L'hospitalité, ça a des valeurs, ça a une éthique.
Voilà, c'était en septembre 2017 à Paris, lors de la marche des hospitaliers, le coup de gueule d'une manifestante au micro de Charlotte Perry dans l'émission Un bruit qui court sur France Inter. L'hôpital n'est pas une marchandise, il doit retrouver son hospitalité. Un cri du cœur à l'image de ce qui se passe en ce moment un peu partout en France, dans les hôpitaux, des grèves et des mouvements de protestation pour dénoncer le manque de moyens et notamment... À Toulouse, Mathilde Erard.
Oui, et ce malaise, on le voit aussi à travers une fuite massive de documents, des documents internes au CHU de Toulouse qu'on appelle des fiches d'incidents. Il y en a 26 000 qui vont de 2013 à 2017, toutes révélées par l'émission Envoyé spécial et le site Médiacité.
Des fiches d'incidents, qu'est-ce que c'est exactement ?
En fait, c'est un peu comme un carnet de bord de l'hôpital. À chaque fois qu'il y a un problème, plus ou moins grave, les soignants le signalent, ils remplissent une fiche, elle remonte jusqu'à la direction. Beaucoup de petits incidents du quotidien, mais aussi des alertes plus graves à cause du manque de personnel, explique le rédacteur en chef de Médiacité, Sylvain Morvan.
Sur l'ensemble de ces documents, il y en a plus de 1000 qui signalent des problèmes de conditions de travail, de nombreux cas de manque d'effectifs dans des services qui, selon certains témoignages de soignants, mettent en danger la vie des patients.
Une mise en danger de la vie des patients dans certaines fiches d'incidents, vous avez des exemples ?
Une infirmière en gynécologie complètement débordée pour s'occuper de 14 patientes avec une collègue. C'est du matériel médical qui tombe en panne, une chute de peinture sur le bloc opératoire, ou encore cette fiche datée du 5 août 2016. Un jeune médecin doit faire passer un scanner à une patiente dans un état critique, mais il n'y a personne pour la transporter. Nous avons fait lire cette fiche par un journaliste.
Suspicion d'une hémorragie cérébrale. Un brancardier est venu vers 15h en disant qu'il ne pouvait pas assurer le transport. 2 heures après, la patiente n'était toujours pas partie faire son scanner. Vers 18h30, j'ai assuré le transport avec l'aide de mon collègue. Donc, entre la demande faxée et le transport réalisé, il s'est écoulé 9 heures de temps. Pour information, la patiente est décédée 3 jours après, le 8 août, dans la soirée.
Ah oui, donc 9 heures pour transporter une patiente qui va ensuite décéder selon cette fiche d'incident. Mais derrière tous ces documents, Mathilde, on l'a bien compris, il y a du personnel soignant qui finalement tire une sonnette d'alarme.
Oui, et certains d'entre eux ont accepté de nous parler sous couvert d'anonymat. Ils ne sont pas syndiqués, donc moins protégés et du coup, ils craignent des représailles. Écoutez ce brancardier au micro d'Alain Gastal. Il décrit l'état de délabrement de certains bâtiments dans lequel il doit passer pour transporter des malades vers le bloc opératoire. Nous avons modifié sa voix.
Alors, il y a eu un plafond qui s'est effondré, un morceau de plafond. Nous l'avons signalé à l'encadrement. Et l'encadrement nous a dit que si le plafond n'était pas tombé sur le patient, c'est qu'il n'y avait rien de grave. Voilà, mais ça aurait pu arriver. C'est rempli de trous, ça fait plus de 2 ans qu'on leur demande qu'ils nous bouchent les trous et c'est toujours pas fait. Donc les patients, quand on les passe par là, on est obligé de faire le transport très lentement. Même en le faisant très lentement, le patient souffre quand même.
Des patients qui souffrent, des trous dans le plafond, dit ce brancardier, mais il n'y a pas que des problèmes matériels, Mathilde.
Effectivement, il y a aussi du manque de personnel dans certains secteurs, notamment pour lever des patients dépendants. Voilà ce que nous a raconté une aide-soignante. Impossible pour elle et sa collègue de sortir de son lit une patiente de 130 kilos.
Pour sortir une patiente de 130 kilos polyhandicapée de son lit, ce n'est pas possible. Donc la dame a passé 7 semaines dans son lit avec, je pense, on a dû faire 2 levées avec l'aide des brancardiers sur 7 semaines. La patiente a beaucoup pleuré, bien sûr, parce que c'est un peu difficile d'expliquer à une patiente qui, chez elle, a un équipement pour se lever, que nous, on va pas pouvoir le faire. Il y a la souffrance morale, il y a la souffrance physique, et la nôtre, en fait, et c'est pour nous hyper dangereux, quoi. Mais on n'a jamais été entendu pour ça. C'est de la maltraitance. Et nous, professionnellement, on sent très très mal, parce que notre rôle, c'est de prendre en charge correctement les patients, certainement pas de les maltraiter, en fait. Donc oui, on culpabilise.
Alors, je précise, nous avons interrogé la direction du CHU de Toulouse là-dessus. Elle se dit très étonnée et assure n'avoir jamais été alertée sur un cas pareil.
Donc, ce qu'on entend dans ces témoignages, c'est qu'il manquerait des bras dans les services. Combien exactement ?
Là-dessus, on a plusieurs sons de cloche. Il y a la CGT, pour qui 150 emplois ont été supprimés ces deux dernières années. La direction parle, elle, de 720 emplois créés en 7 ans. Et si on regarde le bilan social du CHU en 2016, on note une baisse générale de 56 emplois.
Alors ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la priorité a été donnée à la réduction du déficit.
Oui, à Toulouse, ce déficit est passé de 30 millions à 14 millions d'euros sous la direction de Raymond Lemoine. Il est aujourd'hui directeur de cabinet de la ministre de la Santé. Une politique de réduction des déficits contestée par Pauline Salingue de la CGT.
C'est une grande fierté de Monsieur Lemoigne, notre ancien directeur, désormais directeur de cabinet de Madame Buzyn, d'avoir réduit le déficit de moitié. Mais forcément, les millions d'euros, faut les trouver quelque part. Donc on les trouve où ? Ben, on supprime des postes. Et concernant le matériel, même si on n'a pas d'études précises là-dessus, quand on fait des économies sur le dos du personnel, pourquoi pas en faire aussi sur le dos du matériel ? Et c'est ce qu'on constate au quotidien.
On aurait privilégié l'aspect financier à l'aspect humain, dit la CGT. Et qu'est-ce qu'il répond, Raymond Lemoigne ?
Il ne souhaite pas s'exprimer publiquement, mais dans son entourage, on conteste toute baisse de moyens humains et matériels. On insiste plutôt sur la nécessité de réorganiser les services en fonction des besoins, avec un objectif, le retour à l'équilibre financier.
Bon, et comment réagit l'actuelle direction de l'hôpital de Toulouse à la publication de toutes ces fiches d'incidents et ces témoignages ?
On a posé la question à la directrice par intérim du CHU, Anne Ferrer, et voilà sa réponse.
Ces fiches d'incidents sont le témoignage d'une culture qualité que tous les établissements de santé mettent en œuvre. Cette culture qualité, elle est évaluée, elle est partagée, elle est suivie par la Haute Autorité de Santé. Derrière un événement indésirable, grave ou pas, on doit avoir la même exigence d'amélioration de la qualité. On a des cas de figure qui sont très variables. On a par exemple le cas de figure où un agent va se considérer comme débordé et va souhaiter alerter son encadrement sur le fait qu'à l'instant T, elle soit débordée. C'est son approche subjective et en tant que telle, elle doit être respectée, elle doit être travaillée et on doit lui répondre. Ce qui arrive dans toute structure qui travaille sur la qualité de ses soins, de ses prises en charge, ce qui arrive à Airbus. Je crois que le monde de l'aéronautique, puisqu'à Toulouse, on a un ADN en commun, c'est cette culture qualité. Eh bien, dans le monde de l'aéronautique, ils ont aussi leur fiche d'événements indésirables et à chaque fois, on les travaille entre pairs.
Mais l'hôpital, c'est pas un avion.
Oui, mais l'hôpital a le même souci d'avoir une obligation in fine, non plus de moyens, mais quasiment de résultats.
Une quasi-obligation de résultat, des approches subjectives auxquelles on essaye de répondre à chaque fois pour améliorer la culture qualité. Voilà donc ce que dit la direction du CHU de Toulouse. Bon, cela dit Mathilde, bien avant ces fameuses fiches d'incidents, d'autres personnes extérieures à l'hôpital ont alerté.
Oui, un cabinet d'experts spécialisé dans la santé au travail a fait plusieurs rapports. En 2015, il intervient une première fois à la demande du CHSCT de l'hôpital, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui s'inquiète de la mise en place de planning plus rigide. L'expert Rémi Blic est donc allé sur le terrain et voilà ce qu'il a conclu.
Notre rapport a eu des conclusions assez dures hein, qui indiquaient que cette organisation allait réduire un peu plus encore les moyens organisationnels et mettre les salariés dans une situation tellement dangereuse qu'on a été jusqu'à pronostiquer un risque de tentative de suicide.
C'est quand même frappant ce que dit cet expert de la santé au travail. Son équipe a détecté des risques de suicide au CHU Toulouse et c'est ce qui va se passer.
Oui, 6 mois plus tard, 4 soignants se suicident en l'espace de 4 semaines. Du coup, le cabinet d'experts intervient à nouveau. Il observe du personnel en situation de détresse, un management délétère, une dégradation des conditions de travail. On écoute à nouveau Rémi Blic.
C'est invité dans le discours quotidien les enjeux d'économie, les enjeux de restrictions budgétaires. C'est ça qu'on a constaté sur le terrain. Tous les ingrédients pour une mayonnaise explosive, quoi. C'est vraiment l'idée là. Quand on dépossède les salariés de terrain des questions de qualité de leur travail, ben c'est là qu'on met des salariés en situation de risques psychosociaux et de grandes souffrances professionnelles. Ce qu'on observe au CHU de Toulouse, c'est le symptôme de tout le système hospitalier en France. Le premier objectif qui est considéré maintenant dans l'hôpital, c'est l'objectif de rentabilité.
Alors on a vu comment au CHU de Toulouse, les conditions de travail du personnel se sont dégradées au fil des ans, selon un cabinet d'experts. On a vu comment une vague de suicides avait touché l'hôpital en 2016. Mais au-delà du cas toulousain, Mathilde Erard, voyons maintenant comment on en est arrivé à cette situation. Cette mayonnaise explosive, pour reprendre l'expression qu'on vient d'entendre, on la trouve ailleurs.
Oui, par exemple à Lyon, où depuis plusieurs semaines, les urgences et des infirmières sont en grève. Ce qui est nouveau, c'est que ces mouvements de colère dépassent les organisations syndicales, explique Nicole Smolski. Elle est médecin réanimateur à l'hôpital de la Croix-Rousse et membre du syndicat national des praticiens hospitaliers.
C'est des grèves assez spontanées, hein. C'est pas des manipulations syndicales, c'est-à-dire que ça remonte vraiment de la base. Il y a une telle perte de sens pour les gens qui travaillent qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire remonter cette perte de sens que de faire grève. Ça ne change rien à l'organisation des soins. Donc elles ont juste un gros scotch réquisitionné, voilà, infirmière en grève réquisitionnée, mais on ne bloque pas le système. Vraiment, on fait des miracles et tout le monde s'applique et tout le monde se défonce. Sinon, il n'y aurait plus d'hôpital. S'il n'y avait plus cet engagement de tous les acteurs, il n'y aurait plus d'hôpital. S'il ne se passe pas des choses, je pense que dans 10 ans ou dans 20 ans, il n'y aura plus d'hôpital. Donc là, c'est ça, le point de rupture, il est atteint. Donc il faut qu'il y ait une décision politique.
Le point de rupture est atteint, dit ce médecin réanimateur. Ce sont des mots forts. Mais comment les hôpitaux se sont retrouvés dans une situation pareille, Mathilde ?
Alors, pour comprendre, il faut faire un léger bond en arrière. Ça peut paraître surprenant, mais cette organisation à flux tendu au sein de l'hôpital, elle a été en partie inspirée par l'industrie automobile.
Mais comment ça ?
Dans le jargon de l'entreprise, on appelle ça le lean management. Lean, ça veut dire mincir, dégraisser. En fait, c'est l'entreprise japonaise Toyota qui invente cette organisation dans les années 50. Elle est développée par l'industrie automobile américaine dans les années 70. Le principe, réduire les coûts tout en améliorant la qualité de la marchandise avec moins de stock et moins de gaspillage.
Bon d'accord, ça c'est pour l'industrie automobile, mais quel rapport avec l'hôpital ?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type de fonctionnement s'est imposé un peu partout. À l'hôpital, c'est dans les années 2000. Sauf qu'à l'hôpital, ça ne se passe pas comme sur une chaîne de production. Marc Olivo est maître de conférence à l'université de Nîmes. Il a longuement travaillé sur les effets du lean management dans les hôpitaux.
On va compter chaque compresse utilisée par patient ou des protections pour des personnes âgées. On va essayer d'en diminuer le nombre. Donc on a des exemples très parlants dans les CHU de réduction des coûts à tout prix ou on change de fournisseur ou on achète en plus gros et du coup on n'a plus le matériel parfaitement adapté pour la personne. On a simplement un matériel qui coûte moins cher. Le lead management, ça donne des soignants auxquels on confie de plus en plus de tâches et qui courent de partout, ont de moins en moins le temps de se préoccuper des patients. Donc on a des exemples concrets de cadres dans les hôpitaux qui chronomètrent le temps d'un acte soignant pour maximiser le nombre d'actes soignants dans une journée. Et c'est là que se situe le dévoiement de la logique du lean management. Le lean management, c'est productivité et plus de qualité. Dans les hôpitaux, on est sur plus de productivité, au mieux à qualité constante, quand on n'est pas dans une logique où la qualité se dégrade.
Un système dévoyé, plus de productivité et moins de qualité, dit ce chercheur. Ce serait donc le résultat de cette politique de lean management appliquée aux hôpitaux. Ça, c'est pour l'organisation de l'hôpital, mais il y a aussi le financement qui pose problème.
Oui, parce qu'en fait, on a changé de système. Jusqu'au début des années 2000, il y avait une enveloppe globale répartie chaque année entre les hôpitaux, qu'ils soignent beaucoup de patients ou pas. À partir de 2004, ce système change avec ce qu'on appelle la tarification à l'activité, la T2A.
Qu'est-ce que c'est ça, la T2A ?
Pour résumer, ce n'est plus l'hôpital en tant que tel qui est financé, mais son activité. Chaque acte médical a désormais un tarif bien précis. Le problème, c'est que ce système a poussé l'hôpital vers une course aux actes médicaux, constate le chercheur au CNRS Frédéric Piru.
Si tous les hôpitaux commencent à multiplier leur activité, vous faites sauter la banque. Et la banque, c'est quoi ? C'est la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, les hôpitaux ont intérêt à soigner de plus en plus de malades, puisque c'est l'objectif. Mais les recettes de l'hôpital, ce sont les dépenses de la sécurité sociale. Mais en même temps, quand on voit que l'activité augmente trop, eh ben, on va baisser les tarifs. Les soignants ont un peu l'impression d'être des hamsters dans une roue. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à courir de plus en plus vite. Et puis, plus ils courent vite, plus on baisse les tarifs. Donc, plus ils sont condamnés à courir vite. Donc, on a une forme de productivisme à l'hôpital qui se traduit notamment par une dégradation des conditions de travail des soignants, mais aussi une dégradation de la qualité des soins. On s'est tellement focalisé sur la tarification à l'activité que, en quelque sorte, on n'a pas de plan B.
On n'a pas de plan B pour financer les hôpitaux et sortir de cette tarification à l'activité, dit ce chercheur, comme des hamsters dans une roue. Tout ça avec un budget global qui se réduit.
Absolument. Pour 2018, l'assurance maladie prévoit des économies d'€1,6 milliard. Et au bout de la chaîne, il y a les directeurs d'hôpitaux qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume, explique le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valtou.
Le directeur d'hôpital, on en fait le diable du système. Mais le directeur d'hôpital, c'est un fonctionnaire d'exécution. Tout ça, c'est une chaîne hiérarchique où le directeur d'hôpital, il n'est qu'un maillon de la chaîne. Ce sont des chefs d'orchestre, mais je veux dire, ils n'ont pas toutes les manettes. C'est pas eux qui décident de leur budget, c'est pas eux qui décident de leurs moyens, c'est pas eux qui décident de la manière dont les dépenses d'assurance maladie sont votées au Parlement et de leur niveau. Et que s'il y a un problème en France de fonctionnement de l'hôpital, de dysfonctionnement lié au manque de moyens, de dysfonctionnement lié au trop de bureaucratie, il faut d'abord regarder du côté des gouvernements qui sont succédés et qui ont placé l'hôpital dans cette situation-là. On a juste fait des économies pour les économies. On a fait ces 10 dernières années 7 milliards d'euros d'économies à l'hôpital et 3 milliards d'euros ces 3 dernières années. C'est un niveau d'économie jamais atteint.
Un niveau d'économie jamais atteint sans qu'on réforme vraiment le système, dit en substance le président de la Fédération hospitalière de France. Et tout ça, tout ce dont on a parlé depuis le début de cette émission, ça fait de sacrés dégâts.
Oui, on peut arriver à des cas de maltraitance ou de harcèlement. Et c'est la raison pour laquelle un poste de médiateur national a été créé pour tenter d'améliorer les conditions de travail. Il s'appelle Édouard Couty. Ce fin connaisseur du système hospitalier le constate, la parole s'est libérée.
La règle absolue à l'hôpital, c'est l'omerta, le silence. Cette règle, elle est en train de se déliter, dans la mesure où, je crois qu'aujourd'hui, les jeunes professionnels, médecins ou autres, acceptent moins bien des comportements, des attitudes, des brimades, des choses comme ça, qui étaient la pratique et qui aujourd'hui est moins acceptée.
La fin de l'omerta au sein de l'hôpital, dit le médiateur national Édouard Couty. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Merci Mathilde Erard pour cette enquête réalisée avec Alain Gastal à Toulouse. Enquête que vous pouvez réécouter ou podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi la commenter sur la page Facebook de Secret d'Info ou sur Twitter à Investigation RF. Un grand merci également à nos bureaux de Toulouse et de Lyon, à France Bleu Nord et à France Bleu Gard-Lozère. Et à la coordination technique de France Inter.
Secret d'info, Benoît Colomba, sur France Inter.
Alors je me tourne à présent vers notre invité, Philippe Halimi. Vous êtes chef du service de radiologie à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Et vous venez de co-signer avec Christian Marescot un ouvrage intitulé « Hôpitaux en détresse, patients en danger » aux éditions Flammarion. Première question, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre ?
Bien, ce que l'on vient d'entendre est tout à fait représentatif de la situation, non seulement du CHU de Toulouse, mais d'énormément d'établissements sur tout le territoire français. Le système est en train de péricliter. On a parlé tout à l'heure de scanners et on a parlé également de transport de patients. Ouais. Or, moi, en tant que radiologue, je connais la réalité du fonctionnement des urgences en radiologie où si on veut qu'un patient vienne pour avoir son examen, bah, parfois, il faut aller le chercher. Les chirurgiens, lorsqu'ils doivent opérer le matin et qu'il n'y a pas de brancardier, ben c'est eux qui vont brancarder les patients. Ça, c'est une réalité. Il n'y a plus d'adhésion du personnel de santé qui prend en charge les patients à l'hôpital public avec une organisation qui est remplie de trous, de dysfonctionnements majeurs. Et ça, eh bien, si on continue, ça met en cause la survie de l'hôpital public. Avec une organisation complètement défectueuse, on a parlé tout à l'heure de lean management, mais aussi il y a le comportement autoritaire des directions hospitalières qui méprisent, humilient bien souvent le personnel et qui les considèrent comme des pions.
Alors je précise que vous êtes président fondateur de l'association Jean-Louis Ménien, c'est le nom d'un brillant cardiologue qui s'est suicidé le 17 décembre 2015. Il s'est jeté du 7e étage de l'hôpital Georges Pompidou.
Absolument, et d'ailleurs l'association porte son nom en hommage à ce collègue que j'ai bien connu et qui s'est suicidé effectivement il y a 2 ans et demi. D'ailleurs, l'information judiciaire est toujours en cours puisque la famille a considéré, et nous aussi nous le pensons, qu'il a été victime de maltraitance et de harcèlement. Mais il faut savoir que dans cet établissement, il y a eu d'autres suicides un an après et encore tout récemment, une tentative de suicide il y a quelques mois.
Il y a une phrase terrible dans votre livre, c'est un soignant du CHU de Grenoble, où là aussi il y a eu récemment un suicide, un neurochirurgien en novembre 2017. Et cette phrase, c'est la suivante, « Pour s'en sortir, soit on s'en va, soit on craque, soit on devient un harceleur. »
Oui, pour s'en sortir, il n'y a pas énormément de solutions. Donc soit on s'en va, et malheureusement l'hôpital se vide, il y a de plus en plus de difficultés à recruter des chirurgiens, soit on est placardisé, on est isolé, on est en burn-out, on déprime, on s'arrête de travailler et on peut parfois être payé des années sans avoir d'activité possible parce qu'on vous empêche de travailler. Et beaucoup de sociologues du travail, y compris ceux qui travaillent sur la problématique de l'hôpital public, disent qu'il s'agit d'une pathologie de l'empêchement. Les personnels savent ce qu'ils doivent faire pour bien en prendre en charge les patients et on les empêche de les prendre en charge comme ils le devraient.
Et ça, ce type de pathologie a augmenté ?
Ah, il est en progression constante. Nous sont parvenus des centaines d'exemples de collègues qui sont en souffrance pour des raisons de maltraitance et de harcèlement.
À votre association ?
À notre association, à l'association nationale Jean-Louis Ménien. Mais on sait que c'est par milliers que ça se compte, puisque dans chaque établissement où un collègue nous dit être en souffrance et nous donne des éléments qui tendent à prouver que c'est le cas, eh bien, ils nous disent en même temps, eh bien, dans le même établissement où je travaille, il y a d'autres collègues qui sont en souffrance comme moi, mais qui n'osent pas se manifester par peur de représailles.
Alors, sur cette question des suicides et du harcèlement, je vous propose d'écouter la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Je lui ai demandé si elle faisait un lien entre la détresse des soignants et ce qui se passe en ce moment à l'hôpital. Écoutez sa réponse.
En fait, ça n'a pas de lien. La réalité, c'est que le harcèlement à l'hôpital existe depuis de très nombreuses années. Et souvent, il n'est pas lié à la contrainte budgétaire. Il peut être lié à des dysfonctionnements d'équipe. Le monde hospitalier est très fermé. Il y a très peu de mobilité des professionnels. Donc, c'est un vase clos, c'est un huis clos.
Mais ce n'est pas un déni de réalité, ce que vous dites. Ça a quand même un lien avec ce qui se passe sur le terrain.
Moi, j'ai vécu le harcèlement professionnel à l'hôpital Necker pendant des années. Ça n'avait rien à voir avec les tensions de l'hôpital. C'était un problème entre médecins et c'est la majorité des cas. Après, il y a des tensions, c'est autre chose. Il y a des tensions sur les professionnels, mais ce n'est pas du harcèlement. Aujourd'hui, il n'y a pas de harcèlement de l'administration hospitalière sur les professionnels. Ça n'est pas vrai. Le harcèlement moral que subissent un certain nombre de professionnels dont on parle, ou les suicides, ça peut être souvent des dysfonctionnements d'équipe. Et dans ma réforme, je travaille sur les ressources humaines, parce que les ressources humaines à l'hôpital sont très mal organisées. Il n'y a pas, comme dans le secteur privé, un management humain où on fait des rendez-vous d'évaluation, où on envoie les gens en formation. C'est beaucoup plus erratique. Et donc, nous devons améliorer la gestion des ressources humaines hospitalières.
Vous parlez du management humain. Justement, ce management hospitalier, il met la pression sur le personnel.
Non, je refuse. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser le management ou la tarification ou les professionnels.
C'est pas de la stigmatisation. Non, les premières victimes de ça, ce sont les personnels hospitaliers qui travaillent sur le terrain.
Mais aujourd'hui, les directeurs d'hôpitaux sont aussi en difficulté. On leur demande beaucoup.
Mais eux-mêmes subissent ce management. Quand on parle du management, c'est aussi les directeurs hospitaliers qui sont dans cette logique de lean management, de faire plus avec moins de moyens.
C'est là où je dis que le système est arrivé à son terme, c'est-à-dire qu'on a construit un système où tout le monde est sous tension, en fait, parce qu'il faut plus d'activité pour rendre l'hôpital rentable. Et donc, moi, je veux qu'on change de paradigme. Un hôpital n'est pas là pour être rentable, il est là pour rendre un service médical à la population. On va changer de logiciel, et je pense que tout le monde va être plus confortable. Les directeurs d'hôpitaux, les professionnels de santé et l'ensemble des personnels qui travaillent dans un hôpital, ils ont besoin de sens. Et c'est ce sens-là que je veux redonner à la fonction des hospitaliers.
Votre réaction, Philippe Halimi, au propos de la ministre de la Santé.
Elle a parlé de dysfonctionnement. C'est vrai que les tensions que l'on peut observer avec les situations de maltraitance et de harcèlement ne sont pas forcément uniquement expliquées par les dysfonctionnements et les manques de moyens. Il y a aussi un type de management dont elle a parlé d'ailleurs. Les directions hospitalières ne tranchent pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils renforcent en permanence le supérieur hiérarchique, même s'il est maltraitant, et qui met au fond du trou les personnes harcelées. Et là où je rejoins la ministre, c'est que il faut réformer ce système en profondeur.
Mais elle en pour a parlé. Aller où? Pour quel système alternatif?
Alors le système, déjà, on a parlé tout à l'heure de T2A.
La T2A, je rappelle, c'est la fameuse tarification à l'activité. La ministre veut la baisser à 50%. Je vous propose de l'écouter à nouveau et vous allez réagir ensuite.
Nous ne voulons pas que ce soit majoritaire, donc on a dit 50%.
Mais pourquoi pas moins? Pourquoi pas 10% par exemple?
Parce que déjà, de passer de 80 ou 70% à 50%, ça va être un changement structurel profond. Peut-être que dans les années qui viennent, nous modifierons ce seuil. Aujourd'hui, c'est le seuil que nous nous sommes fixés.
Et à quelle échéance vous allez baisser ce seuil?
Dans les 2-3 ans qui viennent, il faut que nous y arrivions.
Et pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant?
Parce qu'il faut trouver sur quoi rémunérer l'hôpital. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'identifier ce qui est un hôpital qui fonctionne bien, comment on tarifie la qualité des soins, et ça, c'est pas simple. Il faut aussi qu'on favorise la coordination et la coopération entre établissements. Un nouveau système, ça ne peut pas se mettre en place du jour au lendemain.
Philippe Halimi, comment sortir de la course à l'acte rentable?
Mais il faut inverser complètement les priorités, accorder une place prépondérante à la qualité de la prise en charge. Il faut sortir de la logique staccanoviste.
Mais est-ce qu'on peut vraiment changer les choses en restant dans la même équation budgétaire?
Oui, parce que malgré les contraintes budgétaires auxquelles on est soumis depuis 10 ans, l'hôpital public continue à perdre de l'argent. Tout simplement parce que les personnels soignants n'y croient plus. Et on ne peut pas faire fonctionner une entreprise. Et à plus forte raison, si c'est l'hôpital, avec la complexité du système, s'il n'y a pas l'adhésion du personnel. Et donc, il va falloir rétablir la voie au sein de l'hôpital pour les personnels soignants.
Mais à moyen constant, avec une demande qui augmente, ça ne peut qu'exploser.
Ça ne coûte rien de modifier les lois de santé qui donnent un pouvoir exorbitant aux directeurs d'hôpitaux et qui met de côté le personnel qui est sur le terrain. Il n'y a quasiment pas d'exemple où ce soit le harceleur qui soit mis sur la touche, et pratiquement dans tous les cas, il faut que celui qui est victime de ce harcèlement s'en aille tout penaud.
Merci Philippe Halimi. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Hôpitaux en détresse, patients en danger, aux éditions Flammarion. Et si le sujet vous intéresse, je vous renvoie également à un web documentaire sur le site Passeur d'alerte. Le premier épisode s'appelle La fin de l'Omerta au CHU de Grenoble. Et je précise que vous pouvez également retrouver l'intégralité de l'interview de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur la page de Secret d'Info. Allez, restez avec nous dans un instant. L'équipe de Secret d'Info répond à toutes vos questions.
So unfree.
Reflections on the Screen, le dernier titre du groupe Super Organism, un collectif de musiciens venus d'Angleterre, du Japon, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.
France Inter. Secret d'info. Benoît Colomba.
Alors nous retrouvons à présent, comme chaque mois, le médiateur de Radio France, Bruno Denas. Beaucoup de questions d'auditeurs sur nos dernières émissions et notamment sur notre enquête menée avec 18 médias internationaux sur cette journaliste assassinée qui enquêtait sur la corruption à Malte, Bruno.
Alors oui, et des auditeurs vous félicitent d'avoir repris cette enquête. Axel vous écrit « Bravo pour le remarquable travail que vous faites dans cette affaire. Votre cause est noble, vous œuvrez pour le bien public ». À l'inverse, il y a tous ces auditeurs fâchés par une fois encore l'absence de réaction concrète de l'Union européenne. Une journaliste assassinée, des ministres et leurs proches corrompus, pourquoi l'Union européenne ne réagit-elle pas, vous demande Romain.
Alors Sylvain Tronchet, c'est vous qui avez mené cette enquête. Est-ce qu'on peut parler d'un silence complice de l'Union européenne ?
Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'il y a, et il y a toujours eu une vraie difficulté pour l'Europe à montrer du doigt l'un de ses membres. Il y a de nombreux responsables à Bruxelles qui pensent que ça nourrit le sentiment anti-européen d'une certaine manière. Et puis Malte a toujours des alliés en Europe. Le groupe des sociaux-démocrates au Parlement européen, dont fait partie le PS français, a toujours soutenu le gouvernement travailliste qui fait partie de ce groupe, le gouvernement travailliste maltais. Et puis à la Commission européenne, le Premier ministre Joseph Muscat a là aussi des alliés, des amis, parce qu'il aide à trouver des majorités. Alors, suite à nos révélations, il y a eu quelques réactions. La commissaire européenne à la justice a annoncé qu'elle allait se rendre sur place, mais dans l'état actuel des choses, officiellement, la Commission européenne considère toujours qu'il n'y a pas de problème d'état de droit à Malte.
Une autre question là-dessus, Bruno ?
Oui, plusieurs auditeurs vous interpellent sur tous ces scandales révélés, dont vous avez d'ailleurs parlé, mais pour lesquels on a l'impression qu'après, eh bien, plus rien. Pour Marie, où en sommes-nous finalement des Panama Papers et autres Paradise Papers ?
Oui, alors, il y a eu quelques réactions concrètes après ces deux affaires dont vous parlez, notamment les Panama Papers, notamment ce qu'on a appelé la mise en place du système automatique d'échange d'informations, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes français et que vous ouvrez un compte aux Bermudes ou en Suisse, la Suisse ou les Bermudes vont le dire à la France. Il y a eu des contribuables poursuivis également. Aux dernières nouvelles, en France, il y en avait un peu plus de 400 dans le viseur de Bercy. Ceci dit, la convention d'échange d'informations, elle n'a pas été signée par certains pays, et notamment les États-Unis, par exemple. Un État comme le Delaware peut être considéré aujourd'hui comme un vrai paradis fiscal. En Europe, certains pays, dont Malte, traînent toujours des pieds pour appliquer les dernières mesures mises en place contre le blanchiment d'argent. Et puis, lors de notre enquête sur Malte, on a vu que le système de vente des passeports maltais à des ressortissants européens ou extra-européens est un système qui peut permettre de contourner les mesures sur le secret bancaire. Une histoire sans fin, quoi, en quelque sorte.
D'autres réactions, Bruno Denas, cette fois concernant notre enquête sur les zones d'ombre du patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn.
Alors, vous évoquiez notamment ses salaires assez délirants, mais beaucoup d'auditeurs ne s'en offusquent pas. Un patron compétent qui redresse des entreprises n'est jamais trop payé, estime Norman. Et Muriel vous demande, pourquoi en France s'en prend-on tout le temps à ceux qui réussissent, qui gagnent peut-être beaucoup d'argent, mais sauf des entreprises, innovent, ont une vision d'avenir et dirigent des dizaines de milliers de salariés.
Bon, alors il faut peut-être juste rappeler que notre métier, c'est pas la communication. Pour dresser des statues ou chanter les louanges de dirigeants d'entreprise, il y a des gens qui font ça très bien, mais c'est pas la vocation de notre émission. Pour le reste, Philippe Reltien, c'est vous qui avez longuement enquêté sur Carlos Ghosn. Je vous laisse répondre.
Oui, attendez, je voudrais ajouter à la remarque de Norman. Un patron compétent qui redresse des entreprises n'est jamais trop payé, sauf quand ses rémunérations sont cachées. Donc la question reste, Carlos Ghosn a accepté cette année une diminution de plus d'un million d'euros de son salaire français, mais qu'en est-il de ses autres salaires chez Nissan et Mitsubishi ? Mystère. D'autre part, réponse à Muriel, l'État avec 15% de part dans le capital peut dire non à des fermetures d'usines en France. L'État actionnaire, ben c'est nous quelque part. Sur 20 ans, grâce au cost-killing, aux synergies, l'emploi durable chez Renault a diminué en France. Et s'il augmente dans le monde pour le groupe, c'est grâce à l'absorption des usines, grâce à la concentration. Alors vous avez raison Muriel, c'est bien qu'un patron réussisse, innove, motive. Carlos Ghosn est excellent pour ça. Mais c'est bien aussi d'assumer les erreurs de vos équipes et de remettre votre titre en jeu de temps en temps. C'est ce que pensent les rares actionnaires critiques de sa toute-puissance. Et tant que Renault roule, tout roule.
Merci à toute l'équipe de Secret d'Info. Merci Bruno Denas. On vous retrouve évidemment dans un mois. Et en attendant, continuez à envoyer vos commentaires sur le site du médiateur, médiateur.radiofrance.fr. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Anne-Sophie Ladonne et à Tristan Gratalon qui étaient à la technique aujourd'hui. Et merci à Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. Dans quelques instants, vous retrouverez Denis Chessou, CEO de Mon Amour, avec un petit détour en Corrèze. La cellule investigation de Radio France revient samedi prochain. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.